Chapitre 44. Elle lui saisit les mains et, les embrassant, « Dieu vous touche !» s'écria-t-elle. « Ah, mon Dieu, je vous remercie !» Et, se jetant à genoux, elle parut mettre son âme dans un acte de remerciement. Pendant plusieurs minutes, elle resta absorbée dans sa prière. Quand elle releva les yeux, elle ne trouva qu'un mot, qu'un nom à répéter. « Arthur ! Oh, Arthur !» À quelle œuvre employer cette fortune ? Demanda-t-il vivement, comme s'il avait hâte d'échapper à cette pensée. Elle hésita un moment avant de répondre. Devait-elle pousser immédiatement sa victoire jusqu'au bout ? Devait-elle se contenter ce jour-là de ce qu'elle avait obtenu et laisser à la réflexion le temps d'agir ? Avec tout autre que le marquis, ce système eût pu devenir dangereux. Mais avec lui, il n'y avait pas à craindre qu'il revînt sur l'engagement qu'il venait de prendre, et à brusquer les choses, il y avait toutes sortes d'inconvénients qui disparaîtraient si l'on avançait doucement. Elle résolut donc d'attendre. « À qui léguer votre fortune ? » dit-elle enfin. « Vraiment, je ne sais que répondre, car votre générosité me prend à l'improviste. » Bien souvent, en ces derniers temps, je me suis dit que vous accomplirez ce grand acte de foi, mais je m'en suis toujours tenu à la donation que vous feriez, sans chercher au profit de qui. « Je pourrais consulter Pennel, dit-il. « Oh non ! » répliqua-t-elle vivement. « Pourquoi appeler un notaire ? À quoi bon ? Vous connaissez assez les affaires et la loi pour écrire votre testament vous-même, et puis il y a une autre considération qui me fait repousser un étranger. » Elle est égoïste, mais j'espère que vous me la pardonnerez. Je voudrais que ce testament fût dû à ma seule inspiration, à ma seule influence, et je pousse cette exigence jalouse si loin que, plutôt que de vous voir appeler en notaire, je vous tiendrai la main pour écrire si cela est nécessaire. Personne entre nous, n'est-ce pas ? Vous donnez et je vous fais donner. Comme cela, notre accord est parfait, notre association est telle que nous ne faisons qu'un. Quant à savoir à qui donner, nous chercherons, nous trouverons. Rien ne presse, Dieu merci. Vous êtes en bonne santé et désormais, n'étant plus sous le poids des inquiétudes et des craintes qui vous oppressaient, vous vous porterez mieux encore. L'essentiel était de prendre cette sublime résolution. Elle est prise, maintenant nous avons l'avenir devant nous. » Mais cet avenir qu'elle lui accordait aussi généreusement en paroles se borna en réalité à 3 jours. Il est vrai que pendant ces 3 jours, elle s'appliqua à le rendre le plus heureux homme du monde. Quelle différence entre ce paradis s'ouvrant pour lui après sa promesse de testament et l'enfer dans lequel il avait été plongé alors qu'il hésitait à prendre cette résolution. Comme ces jours pleins de douceur, de tendresse, de joie, de plaisir lui en promettaient d'autres pour l'avenir également heureux. Le matin du 4e jour, elle l'aborda avec une figure radieuse. « J'ai trouvé, » dit-elle. « Qu'avez-vous trouvé qui vous rende si joyeuse ? » demanda-t-il, sans se douter de ce dont il allait être question. « Quoi que ce puisse être, il y aurait péché à troubler votre joie. Mais, au lieu de la troubler, j'espère bien que vous allez la partager. Voyons cela. Vous laissez votre fortune au couvent de Sainte-Rutilie. » Il se renversa en arrière. Le coup, en effet, était rude, surtout, il était inattendu. Son testament, depuis 3 jours, il n'y pensait plus, et pour le lui rappeler, elle avait pris ce visage joyeux. Il ne put s'empêcher d'en faire l'observation. « Mais assurément, répondit-elle, je suis heureuse. Et pourquoi ne le serais-je pas ? Est-ce qu'il n'avait pas été convenu que je devais chercher une fondation pieuse qui réunit les conditions que nous désirions ? Ne me l'aviez-vous pas demandé vous-même ? Cela est vrai, mais vous m'aviez répondu que rien ne pressait, que nous avions l'avenir devant nous. Rien ne presse en effet, et ce n'est point avec précipitation, avec impatience, que je me suis livrée à cette recherche. Mais il me semble qu'il y aurait grande faute à moi, et aussi à vous, mon ami, à repousser une inspiration qui se présente et qui, sans doute, nous est envoyée par Dieu. Pensez à cela. En vous parlant comme je le fais, je crois vous répéter la voix du ciel, et voilà pourquoi vous me voyez si heureuse. Cette inspiration qui m'a été envoyée n'est-elle pas la marque que Dieu approuve mes efforts ? et par ce témoignage de sa bonté, ne puis-je pas avoir toute espérance? Comment alors ne serais-je pas heureuse ? Il était certain qu'en se plaçant à ce point de vue, cette joie pouvait se comprendre et s'expliquer. Aussi, après quelques minutes de réflexion, l'impression douloureuse dont il avait été frappé se dissipa-t-elle. Mais ce qu'il ne comprenait pas aussi facilement, ce fut ce choix de Sainte Rutilie. Pourquoi Sainte Rutilie ? À cette question, elle se récria. Sainte Rutilie est une maison d'éducation pour les jeunes filles, n'est-ce pas ? Dit-elle. Eh bien, est-ce que vous ne sentez pas qu'en souvenir de l'enfant que nous avons perdu, nous devons penser aux enfants des autres ? Quoi de plus généreux, quoi de plus utile que de faire élever et instruire de pauvres jeunes filles qui, sans votre acte de générosité, seraient restées sans éducation ? Pour cela, rien n'est plus simple. Il n'y a qu'à inscrire dans votre testament une condition pour obliger le couvent à recevoir 20 jeunes filles de la contrée choisies parmi les plus méritantes. Entendez-vous dès maintenant les bénédictions qui accompagneront votre nom ? Ces jeunes filles prieront pour vous, non pas pendant un jour, non pas pendant quelques jours, mais à jamais et pour l'éternité. Elle resta sur ce mot et pendant toute la journée, il ne fut plus question de testament. Seulement, de temps en temps, elle s'arrangea pour prononcer le nom de Sainte Rutilie. Par là, elle le ramenait incidemment à l'idée qu'il ne devait point oublier. Mais le soir, elle revint franchement à cette question qu'elle voulait faire décider ce jour même. Ils étaient seuls, M. de Carquebut étant parti se promener à la foire de Condé après le dîner. Au lieu de passer dans le salon, il s'était installé dans la chambre du marquis devant un beau feu flambant qui avait été allumé pour dissiper l'humidité de la nuit. Pendant la première partie de la soirée, elle ne parla que de sujets indifférents. Mais lorsque le thé fut servi et quand les fenêtres et les portes furent fermées, elle changea d'attitude. Comme elle paraissait plongée dans une sombre méditation, il interrogea pour savoir ce qui la préoccupait. « Toujours la même chose, répondit-elle, toujours ce testament. Je me dis qu'au lieu de rester sous l'obsession de cette idée, nous devons nous hâter de nous en débarrasser. Pourquoi, ce soir, dans le recueillement où nous sommes, ne le feriez-vous pas ? Mais je n'y ai pas pensé, je ne m'y suis pas préparée. Moi, j'y ai pensé et je m'y suis préparée pour vous, me disant que ce nous serait à tous deux un grand soulagement quand cette affaire serait terminée. » Voyez combien nous avons éprouvé de calme depuis que vous vous êtes arrêté à cette résolution. Pourquoi ne pas en finir tout de suite ? N'est-ce pas quand on est en bonne santé qu'on doit s'occuper de ces sortes de choses ? C'est en suivant cette pensée que j'ai rédigé tantôt un brouillon qui me semble donner une forme définitive à vos intentions. Voyons, dit-il en lui tendant la main. Mais, au lieu de lui donner la feuille de papier qu'elle tenait pliée en quatre, elle l'éloigna. « Vous trouverez, dit-elle, une modification à mes idées premières, ou plutôt une disposition qui les complète. En décidant que vous laisseriez votre fortune pour être employée à une fondation pieuse, nous avons naturellement pensé que nous quitterions cette terre ensemble et en même temps. Mais si cela n'arrivait point, si vous me surviviez, ou bien si je vous survivais, que se passerait-il ? Si je partais la première, cela n'aurait pas d'importance, j'entends au point de vue de la donation que vous faites. Mais, au contraire, si j'avais la douleur de vous perdre, comment pourrais-je continuer les habitudes de charité et de générosité que j'ai prises auprès de vous ? Que répondrais-je à ceux qui viendraient me demander en votre nom ? Comment pourrais-je persévérer dans la voie que vous m'avez tracée ? C'est pour parer à ces inconvénients que j'ai introduit dans notre projet quelques changements que vous approuverez, j'en suis certaine. Au reste, je vais vous lire mon brouillon si vous le voulez. » Et s'asseyant à ses pieds sur un tabouret, elle commença à lire. « Par le présent testament, je révoque tout ce que j'ai pu faire jusqu'à ce jour. » Pénétré pour Dieu de la plus profonde gratitude et voulant reconnaître ses grâces et ses bontés, j'institue pour légataire universel le couvent de Sainte Rutilie, qui, selon mon sentiment, peut rendre les plus grands services à notre sainte religion. Je lègue à Mme Clémence Beaujonnier l'usufruit de tous mes biens, meubles et immeubles. Je lui lègue aussi en toute propriété une somme de 1 500 000 francs. » Elle avait lu ces deux paragraphes d'une voix rapide et légère, comme s'il ne s'agissait que d'une disposition de peu d'importance. Mais en même temps, elle avait tenu ses yeux levés sur le marquis, l'examinant jusqu'au fond de l'âme. Au mouvement qu'il fit, elle comprit qu'elle ne devait pas poursuivre sa lecture. « Ce legs doit vous surprendre, dit-elle. Aussi, je veux vous l'expliquer. Je demande ces 1 500 000 francs pour les partager entre Denise, M. Louis et M. de Carquebute. Ce sera un moyen pour me faire pardonner mon intervention. » Elle continua sa lecture. « Enfin, je charge encore le couvent de Sainte-Rutilie d'élever et d'instruire 20 jeunes filles du diocèse de Condé. Après avoir été choisies par Monseigneur l'évêque sur une liste de présentations dressée par tous les doyens du diocèse, elles devront passer 4 années dans le couvent. On en recevra donc 5 chaque année pour remplacer les 5 qui sortiront. Fait à Rudemont, le... » Elle s'arrêta et remit sur les genoux du marquis la feuille de papier dont elle venait d'achever la lecture. « Eh bien, qu'en dites-vous » demanda-t-elle. « N'est-ce pas cela que vous vouliez ?» Il ne répondit pas. Alors elle quitta son tabouret pour aller s'asseoir dans un fauteuil au coin de la cheminée. Elle étouffait. Les minutes s'écoulèrent sans qu'ils parlassent ni l'un ni l'autre. Le silence de la nuit n'était troublé que par le tic-tac de la pendule et les pétillements du feu. À la fin, ne pouvant plus résister à son anxiété, elle revint se mettre à genoux devant lui. « Arthur, dit-elle, nous traversons une heure décisive. Je ne veux en rien peser sur votre volonté, mais je dois vous faire connaître la mienne. Si ce que je vous conseille ne vous paraît pas juste, repoussez-le. Mais alors ne vous plaignez pas si je suis obligé d'obéir à la voix de ma conscience. » Il hésita encore assez longtemps avant de répondre. Enfin, il se décida. « Nous ne pouvons pas nous séparer, dit-il. Je vous prie de me donner ce qu'il faut pour écrire. » En moins d'une minute, il eut devant lui une petite table sur laquelle se trouvaient des feuilles de papier timbrées avec une plume et un encrier. Il prit la plume et se prépara à copier la feuille de papier qu'elle avait lue. Mais sa main était tellement tremblante qu'il laissa échapper la plume. « Remettez-vous, dit Clémence, ne vous pressez pas. » Et elle lui rapporta une tasse de thé qu'elle venait de préparer en y versant une forte dose de rhum. Il reprit la plume, mais comme il tremblait toujours, « Attendez, dit-elle, je vais vous tenir la main. » Alors, s'asseyant tout près de lui, elle lui prit les doigts de sa main droite, tandis qu'elle lui passait le bras gauche autour du cou.